Cours de critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 4 février 1994.
Peut-on dire que la conscience morale est comme un regard réflexif? Je me regarde aimant et je juge de la vérité de mes actes en fonction de la fin que je poursuis. Ce serait alors comme un examen de conscience. Peut-on faire l'analogie avec le jugement de valeur de l'artiste qui regarde l'œuvre dans la lumière de l'idée, de l'idéa? Enfin, quelle différence y a-t-il entre la conscience morale et la droite règle dont parle Aristote au livre 6 de son Éthique? Bon, alors, c'est toujours très très important de comprendre ce qu'on appelle un regard réflexif. Il y a une conscience de nos activités spirituelles. Et puis il y a un regard réflexif. La critique est un regard réflexif. L'examen de conscience est un regard réflexif. La relecture psychologique est un regard réflexif. Tandis qu'ici, il ne s'agit pas du tout de ce regard réflexif. Il s'agit de la lucidité que j'ai dans mon activité spirituelle. Vous comprenez, c'est très différent. Dans le regard réflexif, je réfléchis sur une activité qui a eu lieu. J'ai travaillé, je réfléchis sur ce que j'ai fait. Le soir, quand vous faites un petit examen de conscience, c'est normal. Vous réfléchissez sur les activités de la journée. Et puis vous vous apercevez que, bah oui, vous avez été énervé, vous avez donné une gifle à votre frère. Bah, c'est un événement, ça. J'espère que ça n'arrive pas tous les jours. Vous réfléchissez sur pourquoi je fais ça. Ah, ce frère m'avait agacé. Est-ce qu'il m'avait agacé? Et il ne comprenait pas du tout. Il fallait donc, comme un... qu'enfin il comprenne, quoi. Alors, vous vous justifiez à vous-même. Puis en même temps, vous dites, oui, c'est pas bien. J'aurais dû être très patient. Si on donne une gifle sur une joue, faites attention, hein. Jésus ne fait pas ça tout le temps. Et donc dans l'examen de conscience, je dis, mais c'est vrai, Jésus ne l'a pas fait quand il était au Sanhédrin et que le garde de la gifle, il n'a pas dit du tout. Maintenant, l'autre, non, il dit, pourquoi tu fais ça? Et c'est là où la théologie intervient. Il ne faut pas imiter matériellement. Ça, c'est le fondamentalisme. Tout ce que Jésus a fait, je le fais. C'est une identification avec Jésus, ce qui n'est pas juste. Chaque personne est unique pour Dieu. Chaque personne. On est seul avec Dieu. Tout le temps. Il n'y a pas une vision béatifique commune. Or, la foi ordonner la vision béatifique. Et identification, c'est un phénomène psychologique, mais ce n'est pas la réalité divine. Alors, ici, il s'agit de la conscience morale qui est conscience morale, c'est justement ce fait que j'essaie de comprendre que cet acte que j'ai posé, ce qu'il est, je suis conscient d'avoir posé, est juste, est bon. Que cet amour que j'ai à l'égard de telle personne, cet amour spirituel, oui, c'est un amour passionnel, c'est très différent. J'étais séduit par quelqu'un et j'en ai perdu la tête. Ça, c'est la séduction. Et alors, à ce moment-là, il n'y a plus du tout de lucidité. C'est passionnel. Tandis que l'acte moral est lucide. Il y a une auto-lucidité. Je sais ce que je fais. Et je dis cet acte est bon puisqu'il est en conformité avec mon intention. Ou est en conformité avec la loi de Dieu, conformité avec la volonté du Père sur moi, puisque c'est la volonté du Père sur moi qui est en définitive l'ultime mesure de toutes mes activités, si je suis chrétien. Et ce que disaient déjà les stoïciens, conformité avec la volonté de Zeus. Alors évidemment, là, il y a toute une part imaginative, je suis persuadé, même dans Épictète, quoique c'est très difficile. Hein. Parce que Épictète et Socrate, hein. Socrate parlait des voies intérieures. Qu'est-ce que c'était que ces voies intérieures de Socrate? On le saura dans le ciel. On ira demander à Socrate, qu'est-ce que c'est maintenant dans la lumière de Dieu, qu'est-ce que c'est que ces voies intérieures? André Épictète, qu'est-ce que c'était exactement ça? Je ne peux pas juger l'extérieur. Ne jugez pas selon les apparences. Et juger sur les apparences, c'est juger de l'extérieur les intentions de quelqu'un. Et c'est très grave. C'est prendre la place de Dieu. Mais Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on doit avoir ce respect vis-à-vis d'autres, c'est la conscience religieuse. Et la conscience chrétienne va encore plus loin, comme respect vis-à-vis des autres. Il a sa conscience, j'ai la mienne, mais n'identifions jamais notre conscience avec la conscience de quelqu'un d'autre. Ça, c'est prendre la place de Dieu. Dieu seul ne fait pas nombre, dans le sens très très fort. C'est là où cette lucidité de notre regard doit nous permettre de comprendre que nous sommes toujours seuls en face de Dieu, conscience religieuse, dans l'adoration. Je n'adore pas au nom de quelqu'un d'autre. J'adore Dieu parce qu'il est mon créateur. Entre mon âme créée par Dieu et Dieu, pas d'intermédiaire. Ça, la purification radicale. Alors, je peux adorer avec Jésus. C'est sûr. Je peux adorer avec Jésus, c'est-à-dire que Jésus est pour moi cause exemplaire. Il n'est pas cause finale dans l'adoration. L'humanité sainte du Christ n'est pas cause finale. J'adore avec Jésus comme cause exemplaire qui m'apprend à adorer. Parce que j'ai beaucoup de peine à adorer. Toujours. Je suis encombré d'un tas de choses. Donc, comprenons bien qu'il ne s'agit pas d'un regard réflexif. Comme quand je dis la critique est une connaissance réflexive sur mes activités. Tandis que là, c'est une lucidité qui accompagne mon acte moral. Je suis toujours conscient d'un acte moral. Et j'ai une conscience qui n'est pas psychologique, qui est une conscience morale. moment-là, l'acte moral n'atteindrait jamais, ne serait plus objectif. Il y aurait des subjectivités. Me regarder aimant, c'est subjectif. Quand vous vous regardez aimant, vous ne regardez plus celui que vous aimez. Vous vous regardez. Alors vous n'êtes pas identique avec celui que vous aimez. Celui que vous aimez est toujours autre que vous. Il n'y a pas d'identité. Donc je ne peux pas dire je me regarde aimant. Ça, c'est l'attitude réflexive. J'ai aimé pendant ma journée et je peux me regarder aimant. Mais me regarder aimant, c'est l'attitude réflexive que nous faisons maintenant. Je peux me regarder aimant. Ça, je peux le faire. Mais je sais qu'en me regardant aimant, ce n'est pas l'amour. Et l'amour spirituel est lucide. Donc, j'aime. Et je juge de la vérité de mes actes en fonction de la fin que je poursuis. Vous voyez, quand je juge de la vérité de mes actes, vérité morale, ce n'est pas une attitude réflexive au sens critique. Je peux me défendre, oui, me justifier. Alors, à ce moment-là, c'est attitude réflexive. Mais quand j'agis, je ne suis pas tout le temps devant un miroir. J'aime. Et j'ai la conscience que cet amour est juste. Pourquoi ? Parce qu'il est en conformité. Et alors là, vous comprenez pourquoi il n'y a pas juxtaposition. Je suis dans un axe spirituel. Vous voyez ? Morale, elle est présente. mes actes de connaissance et d'amour spirituel ont un objet distinct de leur exercice. Oui, le diestiel pose. Toujours. Et c'est ce qui n'existe plus dans l'hégélianisme et dans tout ontologisme. Il n'y a plus de distinction entre le diestiel pose. Alors, à ce moment-là, on se donne à soi-même son propre objet.
Consiste
et ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand Épictète dit qu'il faut obéir à Zeus, comment Épictète sait-il la volonté de Zeus? Est-ce que c'est son imagination? Ou est-ce que c'est vraiment la volonté de Zeus? Et c'est pour cela que Dieu donne une loi. Autrement, Dieu ne donnerait pas de loi. Dieu donne la loi pour nous donner un aspect objectif, au-delà de mon intuition. Soit ce désir que j'ai de bien agir. Attention, soyez intelligent pour Dieu, puisque Dieu vous a donné l'intelligence. Alors, il est prudent pour moi d'obéir. Voyez, vous avez un acte de prudence et un acte d'obéissance. Et pourquoi cet acte de prudence? limitée, l'autorité des parents est limitée. Et puis ensuite, vous avez une autorité au niveau légal. C'est important de saisir quand apparaît l'autorité. Avec l'autorité apparaît l'obéissance. On n'obéit pas à un ami, on obéit à quelqu'un qui a autorité sur nous. Autrement, on évite tout acte d'obéissance. Un ami peut vous donner un conseil, mais un ami ne vous donne pas un ordre. Faut pas confondre. Alors, au plan spirituel, au plan divin, l'autorité apparaît alors beaucoup plus. Parce que de fait, toute notre vie chrétienne est fondée sur le sacerdoce du Christ. Et sur la maternité divine de Marie. Alors vous avez une autorité au niveau sacrement. Et vous avez une autorité au niveau maternel. Pratiquement, c'est les deux autorités qui cheminent constamment dans notre vie chrétienne. Et Jésus est mort dans l'obéissance au Père pour nous faire comprendre que l'autorité visible est ordonnée à une autorité invisible, celle de l'Esprit-Saint, celle du Père, celle de Jésus sur nous. Et que l'autorité prend alors une place énorme dans la vie chrétienne. Au fond, la vie chrétienne implique l'obéissance. J'allais presque dire, ce qui est en dehors de l'obéissance est en dehors de la vie chrétienne. Puisque Jésus est mort dans l'obéissance. Ça va très loin, ça. Ça nous montre le bienfait de l'obéissance. Et le bienfait de l'obéissance, c'est que nous voulons être à la suite du Christ tout entier engagé dans l'obéissance. Autrement, notre vie, elle dépend de nous. Elle est à nous. Il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de lien immédiat avec Dieu. C'est nous. Alors on peut faire des choses très belles et très grandes, mais ce n'est pas immédiatement chrétien. Prudence joue très très fort là. Je prends cet exemple parce que ça c'est l'exemple le plus grand. Alors quel est le rôle de la prudence dans l'obéissance? Qu'est-ce qu'on représente comme coupe particulière un acte d'obéissance? Et c'est vrai, il y a vraiment là un type de connaissance particulière ou d'acte particulier qui est l'acte d'obéissance, qui reste un acte humain et qui pourtant accepte l'intervention de l'imperium d'un autre. Jusque-là, voyez, quand il s'agit de l'amour premier, de l'intention, du choix, de l'exécution, c'est moi. l'obéissance, il y a cette chose très particulière, c'est que l'autre, c'est-à-dire celui qui a autorité sur moi, et que j'accepte comme ayant autorité sur moi, me commande quelque chose qui n'est pas de moi, qui est de lui. Et donc, j'accepte le commandement de l'autre comme étant ma règle de vie. Dans un acte d'obéissance, c'est ce que l'autre m'a demandé que j'accepte. Dans un acte d'obéissance. Et j'accepte sa volonté, ou plus exactement, sa proposition. Son commandement, parce que j'ai accepté son autorité. C'est en fonction de son autorité que j'accepte que ce qu'il me commande est la mesure de mon acte. Alors voyez où joue la prudence. La prudence consiste à accepter l'autorité de l'autre. Tel domaine, je sais que si je n'accepte pas cette autorité, je risque constamment de me fourvoyer. Il faut être très lucide. Alors c'est évident, si je comprends que je dois entrer en vie religieuse, j'accepte l'autorité qui est impliquée dans la vie religieuse. Et je l'accepte par amour pour le Christ. Et ces autorités sont reconnues par l'Église. C'est pour ça que je les accepte. L'Église peut matériellement se tromper, mais moi, en obéissant, je ne me trompe pas. C'est ça le grand garant de l'obéissance. Tandis qu'autrement, je peux toujours me tromper. Alors, je suis comme un errant. Celui qui n'accepte pas l'obéissance est toujours un errant. Il cherche à avoir une certitude, mais il ne l'aura pas parce qu'il est dans la foi. Et c'est le propre de ce domaine de vivre dans la foi, exige de nous de prendre la canne de l'aveugle. Et la canne de l'aveugle, c'est l'obéissance. C'est pas drôle, c'est évident. C'est d'accepter d'entrer dans le royaume de Dieu comme des enfants. Mais accepter l'obéissance quand on a déjà une certaine expérience de vie, c'est pas commode du tout. Alors intérieurement on l'accepte parce qu'on reconnaît, mais quand cette obéissance touche un tout petit peu le fort externe, c'est pas drôle. Et c'est jamais drôle d'accepter l'autorité. Parce que humainement parlant, on peut accepter l'autorité dans certains domaines. Considère que l'autre a sa compétence. Mais humainement parlant, on essaie d'éviter le plus possible l'autorité. Humainement parlant et chrétiennement parlant, on essaie de se soumettre le plus qu'on peut à l'autorité. Et là aussi, c'est ce que c'est qu'un humanisme chrétien. C'est-à-dire que c'est tout à fait différent. Mes aspirations humaines vont dans ce sens-là, et mes aspirations divines vont dans un autre sens. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui veut me suivre doit mourir à lui-même. Oui. C'est ça le point crucial. Pour obéir, il faut mourir à soi-même. Et on n'obéit que dans la mesure où on meurt à soi-même. Alors voyez, l'acte d'obéissance est un acte qui est commandé par la prudence, où je reconnais l'autorité de quelqu'un et je reconnais ce qu'il me demande de faire. Et ce qu'il me demande de faire devient pour moi la mesure et l'orientation de mon acte. Et la vérité dans l'obéissance consiste à être en conformité avec l'ordre de celui que je considère comme ayant autorité sur moi. J'exécute ce qu'il m'a demandé. aspect.